Vous écoutez France Culture.
Sur le bateau d'Ulysse, aujourd'hui, la Grèce au risque de la Chine, avec François Julien. Dans la crise de la culture, Hannah Arendt constate, c'était dans les années 80, que nous avons, je cite, perdu le fil conducteur dans les vastes domaines du passé. Pour elle, cependant, la disparition de la tradition signifiait aussi la fin de la routine. Il se pourrait, disait-elle, qu'aujourd'hui seulement, le passé s'ouvre à nous avec une fraîcheur inattendue et nous dise des choses pour lesquelles personne encore n'a eu d'oreille. Alors l'étonnante fraîcheur avec laquelle certains vieux textes familiers nous arrivent, la poésie d'Homère, la tragédie grecque, quelques écrivains et artistes la ressentent et l'interrogent. Mais qu'on lise avec un regard neuf, en saluant leur audace, Platon, Aristote, dont on pensait avoir tout dit, dont on a si souvent critiqué l'idéalisme, l'élitisme, voilà qui est encore plus surprenant. Un philosophe, depuis quelque temps déjà, nous apprend à lire Platon et Aristote vraiment. C'est François Julien, helléniste de formation et sinologue, que je suis heureux d'accueillir. Donc, vous avez choisi de revenir aux Grecs et à l'Europe depuis un dehors, un point de vue d'extériorité qu'offre la Chine. Et au fond, votre démarche est possible parce que ce sont deux cultures de haut niveau et qui se sont longtemps ignorées.
Tout à fait. Au fond, je me suis intéressé à la Chine pour mieux lire Platon, en profitant de l'écart, du recul que nous donne l'extériorité de la Chine, ce que Foucault appelait si bien l'hétérotopie de la Chine. La Chine est ailleurs et elle est restée très longtemps. Elle est restée jusqu'au XVIe siècle, donc très tard par rapport au développement des deux cultures, grecque, enfin européenne et chinoise. Je crois qu'effectivement, passer en Chine, c'est rompre nos amarres, c'est-à-dire prendre une distance qu'on n'imaginerait pas avec la tradition grecque, puisque nous sortons du verbe être, puisque nous sortons d'une langue à conjugaison et à déclinaison, puisque nous sortons de l'alphabet, et puisque la Chine n'a pas connu d'épopée à haute époque, n'a pas développé le théâtre dans son antiquité. Bref, il y a ces écarts, et ces écarts, je crois, sont autant de supports ou de biais pour redécouvrir la culture grecque, c'est-à-dire la sonder dans son impensé. Et au fond, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'atteindre, par cette stratégie oblique, l'impensée de notre pensée.
C'est-à-dire, c'est vraiment une démarche philosophique.
C'est une démarche philosophique parce qu'il s'agit en fait de renouveler notre questionnement. Or, je crois que c'est la question de base de la philosophie, que de trouver de nouvelles prises pour essayer de reconfigurer le pensable. Et au fond, passer de Chine en Grèce, aller-retour, c'est décatégoriser notre pensée, la décatégoriser pour la recatégoriser, donc remettre en travail notre raison.
C'est-à-dire que des notions de la philosophie européenne qui passaient pour être d'emblée universelles ont cessé finalement d'être considérées comme telles.
C'est en fait l'épreuve de mon travail que de voir qu'effectivement, des notions qui me paraissaient aller de soi, c'est-à-dire, vous dites bien, d'emblée universelles, dont on ne soupçonnait pas le parti pris théorique, en fait se révèlent, à partir de l'écart chinois, dans cette dimension implicite de choix. Et au fond, passer par la Chine, c'est retrouver, redécouvrir, faire réapparaître les choix implicites de la pensée grecque, les choix enfouis, si vous voulez, c'est-à-dire ce que la pensée grecque véhicule comme de l'évidence sans plus l'interroger. Alors, par exemple, c'est au départ l'être. Le fait que, entre les deux sens, prédication et existence, identité, on voit bien comment la langue chinoise peut dire la prédication, mais ne dit pas Pierre est, ne dit pas l'être au sens absolu, aplos, comme dit Aristote, c'est pas l'être de l'ontologie, l'être éon, l'être par quoi il est l'être, n'est-ce pas? C'est ça qui n'est pas. Donc la voie de l'ontologie, voie royale de la philosophie, se trouve barrée d'emblée. En même temps, on voit bien comment la pensée chinoise pense, et elle ne pense pas donc en interrogeant l'être des choses, mais plutôt, je dirais, elle considère le monde comme de la capacité investie. Donc capacité investie, processus, régulation, c'est ce côté-là, cette possibilité-là de la pensée que développe la Chine, mais non pas la question de l'être au sens de l'identité. Par exemple, une question que j'aurais cru aller de soi, qu'est-ce que l'homme? Mais la question qu'est-ce que l'homme, c'est une question grecque. C'est pas une question chinoise. Je ne vois aucun auteur chinois qui ait posé la question qu'est-ce que l'homme.
Même un certain style de questionnement, finalement.
Oui, c'est-à-dire qu'au fond, et plus encore que ça, la façon dont la pensée grecque a favorisé la question, à penser la question de la question, bref, à développer l'intérêt même du questionnement. Bon, le fameux terme, enfin le mot grec d'entrée dans la philosophie, celui qu'on voit comme ça à un moment dans le tête-à-tête et que thématise Aristote, le fameux thomazein, s'étonner. Ben voilà, ça c'est quelque chose qui est grec, l'idée que l'étonnement soit fécond, alors que du point de vue de la sagesse, on l'a dit aussi dans la tradition européenne, mais pas dans la philosophie, eh bien l'étonnement, si vous passez en Chine, l'étonnement c'est quoi? C'est ne plus être en phase avec les processus. C'est en rupture avec le monde. C'est donc mettre du doute, et un doute qui n'est jamais vu de façon positive. Donc, ce qui me paraît important, c'est que ce que nous concevons comme au départ de la philosophie, l'idée de l'étonnement, comme fécond, l'idée d'un savoir spéculatif, désintéressé, savoir pour le savoir. La première phrase d'Aristote dans la métaphysique, les hommes désirent naturellement savoir, voilà qui sont autant de choix que la Chine nous aide à redécouvrir et à réfléchir.
Il n'y a pas d'étonnement, mais il y a l'étude chez les Chinois.
Oui, alors l'étude, le fameux xue, n'est-ce pas ? Étude, application, ce terme, disons, qui est si large en chinois et qui signifie finalement le respect de la filiation, le fait qu'on ne prétend pas commencer à penser, on ne prétend pas introduire une rupture dans la pensée, on entre dans les pas, les traces des prédécesseurs, on étudie, on s'applique, ce qui ne veut pas dire qu'on n'atteigne pas d'originalité. Non, la pensée chinoise est originale, les penseurs sont originaux, comme les peintres chinois sont originaux. Mais il y a cet apprentissage, ou plutôt ce fait qu'on n'assume pas la pensée comme une aventure singulière et risquée.
Même si la Chine est ailleurs, pour dialoguer, il est quand même nécessaire qu'il y ait des choses en commun, non ? Une certaine cohérence, une intelligibilité.
Je crois que c'est cela qui est important. C'est que pour concevoir le dialogue entre les cultures, comme entre la culture grecque et la culture chinoise, il faut à la fois mettre en évidence le dia et le logos. Le dia, de l'écart. Éprouver ce qu'il peut y avoir de divers dans la culture du monde et l'éprouver comme une ressource, non pas du point de vue de l'identité, mais de la ressource. Il y a une fécondité de ce divers. En même temps, il y a le logos. Je crois que le commun de l'humanité, c'est l'intelligible. Et effectivement, un terme que je favorise pour faire pont entre les deux côtés, c'est celui de cohérence. Raison est trop marquée au sceau de la raison européenne, vérité trop marquée dans l'histoire de la philosophie européenne, mais cohérence, je dirais que c'est un terme qui peut faire pont, li en chinois, et il me semble que toute constitution culturelle est cohérente, cohérente au sens propre, c'est-à-dire tient ensemble. Et c'est cette cohérence qui permet eh bien, de circuler entre des intelligibilités différentes pour déployer l'intelligence.
Alors, on connaît l'importance, puisque vous parlez du logos, pour la détermination de la nature du logos, du livre Gamma de la métaphysique d'Aristote. Donc, ce livre, vous le faites dialoguer avec les textes chinois qui, peut-être à leur insu, font objection à ce raisonnement qui nous paraît tout à fait naturel pour un grec.
Oui, je crois que le livre Gamma, effectivement, est un point, un lieu de travail possible, parce que Aristote lui-même sait que sa proposition sur le logos, la non-contradiction, le tiers exclu, tout ce qui fait un peu l'armature de la raison grecque ultérieure, et lui-même, disons, ne va pas de soi au sein de la culture grecque. Si bien qu'il dialogue avec Héraclite, si bien qu'il y a Protagoras. Donc je crois qu'il y a un débat interne, n'est-ce pas, à la pensée grecque, et Aristote en tient compte. Simplement, il y a des objections qu'il n'envisage pas. Et je vois que l'intérêt de faire apparaître à l'horizon du livre Gamma d'Aristote les penseurs chinois, notamment ceux du taoïsme, c'est justement de poser à Aristote des questions qu'il n'imaginait pas. Je crois que c'est la question de l'imagination qui est importante. C'est-à-dire qu'il y a des objections qu'il envisage bien, celles qui lui viennent de la, disons, d'Héraclite et disons, du courant, effectivement, du devenir face à l'être et à la pensée de l'ontologie. Mais ce qu'il n'envisage pas, c'est un point de vue qui n'entre pas dans la perspective du dialogue. Et qui, par exemple, allègue à la contradiction, ni s'y oppose, ni n'y adhère, mais garde une sorte de jeu, de libre jeu, n'est-ce pas ? C'est ça qui me paraît intéressant dans la position taoïste, c'est qu'à la fois, on la reconnaît et en même temps, on ne s'y contraint pas. Donc, cette idée de au gré. Et je voulais distinguer, puisque la position, la phrase de première et fondamentale du gamin d'Aristote, c'est une proposition fondamentale, c'est que parler, c'est dire, que dire, c'est dire quelque chose, et que dire quelque chose, c'est signifier quelque chose. Alors, je crois que c'est ça qui fait, disons, une articulation de base. Que parler, c'est dire. C'est-à-dire, c'est dire quelque chose, qui est toujours un « ti », un objet du dire. Or, je crois que c'est, disons, c'est là que Aristote impose une articulation logique forte, celle du discours de détermination, le discours qui sera celui de la science, et par rapport à quoi j'essaie de faire apparaître la pensée taoïste comme étant non pas dire quelque chose, mais dire au gré.
Et dire entre les contraires.
Entre les contraires, c'est ça, c'est-à-dire exploiter tout ce qui est, qui n'est pas le dire exclu, qui est justement cette possibilité que n'a pas développée la pensée grecque, qui n'a jamais donné un statut fort au métaxu, à l'antre. Puisque l'antre, le métaxu chez Aristote, c'est encore un extrême. Le gris n'a pas de statut propre. Le gris, c'est encore un extrême par rapport au noir ou au blanc. Donc, cette pensée de la transition, cette pensée de l'antre, cette pensée de ce qui, très belle formule chinoise, ni quitter ni coller, bouti-bouli. Très belle formule chinoise qui sert à tous égards et qui dit que ni on adhère, ni on se prive, ni on est ascète, ni on est lié, livré au courant du monde. Mais je crois que c'est justement cette possibilité-là de ce que j'appelle la disponibilité, l'ogré, c'est-à-dire ne pas se contraindre, en même temps ne pas se priver. C'est quelque chose qui, disons, fait réfléchir sur les partis pris, très fécond d'Aristote. Il ne s'agit pas pour moi de relativiser Aristote, il s'agit seulement de le relire en essayant de faire réapparaître la fécondité d'une pensée que nous avons ensuite, certes, banalisée, parce que la tradition fait son travail d'assimilation, mais qui est une pensée audacieuse, celle d'Aristote, et qui ne va pas de soi. C'est une pensée inventive, et, disons, passer par la Chine, c'est faire apparaître du dehors l'inventivité, la fécondité de la pensée grecque.
Et de montrer aussi que pour les Grecs et pour Aristote notamment, il s'agit d'obtenir une parole qui soit claire, de manière à pouvoir dialoguer, avoir un interlocuteur qui puisse entendre la même chose que ce que vous dites.
Absolument. Ça, je crois que c'est, disons, le protocole dialogique qu'établit Socrate. Socrate, tel qu'on le voit d'ailleurs dans Platon, savoir c'est toujours cette mise au point de qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment. Et cette idée, au fond, chez Socrate, que, eh bien, si vous et moi nous sommes d'accord, nous allons continuer le chemin, n'est-ce pas ? Et d'abord, il faut s'entendre, vous le dites bien, il faut s'entendre sur les mots, il faut s'entendre. Il faut donc cette clarté qui permette d'éviter le quiproquo pour pouvoir produire une intelligence commune. Or, cette réflexion sur les conditions du dialogue, et sur le fruit qu'il y a aussi à faire jouer des thèses inverses, des thèses contraires pour les faire travailler, ça c'est une idée qu'a développée la Grèce et dont on ne trouve pas l'équivalent du côté chinois où, la pensée du dialogue est restée beaucoup plus élémentaire par rapport à ce que les Grecs en ont fait. Je crois qu'il y a une formule en fond qui est celle qu'on attribue à Protagoras, mais qui est que sur toute chose, on puisse tenir deux discours opposés. Je crois que c'est une formule essentielle parce que c'est là qu'il y a une découverte grecque de la vérité, qui est qu'un discours peut mettre en valeur une idée, mais il faut deux discours opposés pour en éprouver la vérité. Ce n'est que dans la contradiction, ce n'est que dans l'épreuve de réfutation, l'amphisbétesis, comme disent les Grecs, l'épreuve de l'hélenkos, que la réfutation, que la vérité s'éprouve. Et que même si je pense seul ou si je parle seul, je vais réfuter mon propre discours pour le mettre à l'épreuve. Ça, c'est un protocole, disons, dialogique que les Grecs ont inventé.
Alors, un autre enjeu de la pensée européenne, au regard de la chinoise, passe par l'eidos, l'idée. Et là, on remonte d'Aristote à Platon.
Oui, alors, ça me paraît important. Je finis un travail sur la notion d'idéal, justement, comme, invention grecque, parce que l'idée de l'idée ne va pas de soi. Et je crois qu'il y a... Alors, j'essaie de relire Platon en faisant apparaître, parce que des livres sur l'idéalisme platonicien, il y en a beaucoup et de très bien fait, mais il s'agit en fait de sonder cette invention de l'idéalité à partir de la Chine pour en éprouver l'originalité. Et on voit bien que du côté chinois, le rapport est entre les mots et les choses. Il y a une pensée de la spécification. Donc il y a eidos au sens de genre, mais non pas d'idée. C'est eidos au sens de genos, ce n'est pas eidos au sens d'idéa. Et ça qui me paraît important chez Platon, c'est le fait d'avoir promu ce plan aventureux des idées et qui est celui du spéculatif, qui est celui, sur lequel vont se déployer ensuite toutes les opérations de la pensée, toutes les opérations logiques, et qui est totalement, conceptuel au sens où il s'agit de quitter le phénoménal pour le subsumer. C'est ça qui est l'opération platonicienne, celle qu'il ne cesse de nous apprendre à faire, à savoir passer des belles choses au beau en soi. Eh bien, la Chine, les Chinois, les penseurs chinois de l'Antiquité, dans une pensée très développée, n'ont pas fait ce passage, en tout cas n'ont pas fait de façon explicite, ce passage des belles choses au beau en soi, des choses bonnes au bien en soi, c'est-à-dire n'ont pas édifié ce statut de l'idée.
Est-ce qu'on peut dire alors que ce plan d'idéalité trancherait avec ce que les Chinois appellent le processus, ce que vous appelez la processivité ?
Oui, je crois que c'est cela qui est en jeu, c'est que la pensée chinoise ne cesse d'étudier, de scruter la cohérence des choses et la façon dont la capacité investie dans le monde est à même de se réguler et donc de ne pas tarir, de se renouveler. C'est ce que je viens de mettre notamment sur la notion de ciel. Et du côté grec, on voit bien comment l'originalité grecque, ça a été de détacher un plan des idées. Détacher du phénoménal, détacher de la processivité, bref, un plan des idées qui, auto-catoto, comme dit Platon, en soi par soi. Donc il y a une totale indépendance par rapport à la phénoménalité et au devenir. C'est ça qui me paraît essentiel, et sur lequel on va construire la vérité.
Et si les Chinois se mettent en phase avec le processus, leur conception du temps, évidemment, est tout à fait différente de celle conçue par Aristote, par exemple, qui concevait un point qui se déplace d'un lieu à un autre et qui lie le temps au mouvement. Ce n'est pas le cas pour la Chine.
D'abord, soyons plus radicaux, il n'y a pas en Chine classique, avant la rencontre de l'Occident, de concept de temps. Il y a deux notions principales, l'une de moment, occasion, mais d'abord saison, et l'autre de durée. Et effectivement, on voit bien pourquoi la Chine n'est pas entrée dans le concept de temps selon les grandes entrées grecques, qui sont, vous l'avez dit, la première, la physique, celle d'Aristote, penser, aborder nature en termes de corps en mouvement. Et donc de penser le temps comme étant, comme dit Aristote, le nombre du mouvement selon l'avant et l'après, effectivement, un mobile d'un point A à un point B, il y a un point de départ et un point d'arrivée, et le temps sert à mesurer ce parcours. Effectivement, de côté chinois, on aborde la nature en termes de facteurs corrélés, les fameux yin et yang, non pas en termes de corps en mouvement. Puis l'autre entrée essentielle de la pensée du temps dans la Grèce, c'est l'entrée métaphysique. C'est le temps opposé à l'éternel. C'est le temps comme lieu de devenir par rapport à l'identité de l'être. C'est l'entrée platonicienne et plotinienne. Et donc, l'idée de l'éternel comme étant de l'être de l'éternel, dont se détache, comme dit Plotin, le temps tombe, n'est-ce pas, de l'éternité. Or, la pensée chinoise n'a pas pensé un statut de l'éternel, puisqu'elle n'a pas de support de l'être auquel l'adosser, elle a pensé le sans fin, ou tion, ce qui ne se tarit pas, ce qui ne s'épuise pas, ce qui est toujours à même de se renouveler. Donc, il n'y a pas non plus cette entrée métaphysique. Et puis, troisième point essentiel, c'est par rapport à la conjugaison, c'est que nous séparons des temps. Et c'est bien ce que constate Aristote quand il envisage les temps passé, présent, futur. Et ce constat, qui est un constat déjà d'énigme, qui est de dire le temps est une chose étrange, amudros, dit Aristote, parce que c'est un divisible dont les divisions n'existent pas. Le futur n'est pas encore, toujours le verbe être, le passé n'est plus, et le présent n'est que le point de passage, et même pas un point, du futur dans le passé, donc sans extension. Donc, sans existence. D'où cette réalité obscure du temps, nous dit Aristote. Mais face à ça, je dirais que la langue chinoise ne conjugue pas. Donc, ne pas conjuguer, c'est ne pas s'y parer, si vous voulez, les trois temps. En chinois, on dit d'ailleurs non pas à trois, mais à deux termes, toujours la polarité, la corrélation. On dit wang gu tin lai, s'en aller, passer, présent, venir. Donc, tout est dans transition entre passé et présent. Transition continue et non pas séparation des temps. Donc là aussi, le fait de la conjugaison est fondamental.
Au fond, c'est mettre pour les Chinois le monde sous tension sur le mode de la respiration.
Oui, de la polarité et la respiration en est effectivement une illustration majeure. Puisque respirer, c'est quoi ? C'est faire entrer et faire sortir. C'est cette alternance régulatrice. C'est cette façon d'être en phase aussi. Puisqu'on respire toujours au moment où on respire. On ne peut pas, disons, anticiper. La respiration, c'est l'être en phase par excellence. Avec cette idée que, c'est ce qu'on dit dans le Zhuangzi, n'est-ce pas ? L'homme du commun respire à partir de la gorge et le sage respire à partir des talons. C'est-à-dire que tout son être est livré à cette circulation respiratoire et qui fait qu'il y a communication. Et un des grands, thèmes de la pensée chinoise, c'est cette circulation communication qui fait que la vie s'anime, se propage, se renouvelle, bref, est dans ce rapport d'ouverture qui fait qu'elle ne s'engourdit pas, qu'elle ne s'enlise pas. Ce qui est la grande obsession de la pensée chinoise, c'est l'enlisement, c'est la stérilisation, c'est ce qui serait la perte de cette capacité alerte, la chute dans l'inerte. C'est ça qui est, disons, à la fois dans la morale et dans l'esthétique chinoise, l'essentiel.
Parce qu'on comprend peut-être mieux alors pourquoi en Chine il y a cette prégnance des images d'eau pour dire le cours de la réalité.
L'image d'eau, oui, non pas sur le thème de l'éphémère ou du pantarei, n'est-ce pas, de tout s'écoule, de ce qui serait, mais sous le thème de renouvellement sans fin, n'est-ce pas, la fameuse phrase dans Confucius qu'on pourrait prendre pour une phrase d'Héraclite. Tout selon laquelle tout s'écoule, mais ce n'est pas justement le fait qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et donc le fait qu'il n'y ait pas d'identité possible, du point de vue héraclitéen, mais c'est l'idée qu'il y a une source qui ne tarit pas. Et cette idée d'un renouvellement continu dès lors que la capacité investie n'est pas épuisée.
François Julien, vous montrez toute l'audace qu'il y avait à ouvrir un autre plan que celui des phénomènes et du processus continu des choses. Vous dites que c'est le destin de l'Europe qui s'est joué là.
Oui, il me semble qu'il y a effectivement une invention de l'idéal qui a fait destin en Europe, qui est d'avoir détaché ce plan des idées et de l'avoir absolutisé et d'en avoir fait à la fois le lieu de rencontre du spéculatif et de l'érotique. Puisque l'idéal, c'est à la fois ça. C'est à la fois une forme idéale, mais en même temps, livrée au désir, livrée à l'éros philosophique. Et je crois que c'est justement l'articulation forte chez Platon. C'est à la fois... et que la notion de sublimation, chez nous, ne rend pas. On ne peut pas comme ça, se hâter d'aller dans des notions plus modernes pour rendre compte de cette articulation féconde chez Platon, d'un pur spéculatif, qui est aussi l'objet du plus vif amour. Et l'idéal, je crois, a été à conjuguer les deux dans la pensée grecque, notamment dans ce rapport entre eidos et cosmos, et dans cette façon de penser le lointain, le là-bas, le ekei, pas le là-bas. Quand vous regardez la pensée chinoise, il n'y a pas le statut du là-bas coupé de l'ici.
Il peut y avoir d'Ulysse naviguant vers un ailleurs.
Non, parce qu'il n'y a pas, disons, valorisation de l'aventure. De l'aventure, il y a eu des navigateurs chinois, mais ça n'a jamais eu ce statut, si vous voulez, de découvreur, qui est celui de l'épopée odysséenne, si je puis dire, et qui a ensuite la philosophie. Il y a un mot grec qui dit très bien, c'est théoria. Théoria signifiait quoi au départ? Il signifiait les ambassades et les expéditions pour aller voir ailleurs, pour aller dans les autres villes, voir comment ça se passe. Et ensuite a pris ce sens de théorique au sens platonicien, du contemplatif et du spéculatif. Mais un des premiers textes où on voit apparaître le mot « philosophos » en grec, c'est chez Hérodote, et dans un dialogue entre Solon et Crésus, quand Crésus interroge Solon pour lui demander qui est le plus heureux, Crésus pensant qu'on dirait que c'est lui. Et il dit à Solon, toi qui es philosophos, théories et neken, puisque tu as théoria, à cause de ta théorie, à cause du fait que tu allais voir ailleurs. Et on sait bien que chez les Grecs, d'abord voir ailleurs, c'était aller en Égypte. Thalès, Solon, tous sont allés en Égypte, Platon. Comme nous, on allait à Rome, en français, n'est-ce pas?
L'Égypte, c'était au fond notre Chine.
Oui, c'était la ressource. Voilà. C'était à la fois, vous savez, mais Aristote dit bien au début de la métaphysique que la métaphysique a dû prendre naissance en Égypte parce que c'est là qu'est apparu un savoir désintéressé chez les prêtres, n'est-ce pas, qui étaient détachés des corvées ou du travail, n'est-ce pas, alimentaire. Donc je vois qu'effectivement, la Grèce n'est pas que la Grèce, elle a ses marges, elle a ses sources, l'Égypte en était une, et le voyage aventureux. Et je vois qu'effectivement, Ulysse, au fond, c'est le père de la philosophie parce que c'est celui qui, de gré ou de force, et peut-être contre son gré, a voyagé, a exploré, a découvert. Et je trouve que le très bel épisode, par exemple, des sirènes est exemplaire de la philosophie. Puisque Ulysse, il se fait attacher, il bouche les oreilles des autres, mais lui, il veut entendre. Il veut entendre, il veut se mettre à l'épreuve de cette voix séduisante, mais en même temps, évidemment, entraînant dans une voie de perdition, donc infiniment risquée. Et il me semble que c'est ça qui fait écart. La pensée chinoise n'a pas valorisé ainsi le goût du risque, de l'aventureux, de la pensée, mais vous l'avez dit, la filiation. Donc, il y a une intelligence chinoise très riche, très féconde, à mon sens, mais qui n'est pas de l'ordre du spéculatif et qui n'a pas, développé la richesse du questionnement.
En tout cas, vous avez choisi une position inconfortable et même vertigineuse entre la Chine et la Grèce, et vous avez créé les conditions d'un dépaysement qui, au cœur du nouvel ordre mondial, a cet effet incroyable. Nous découvrons à partir du biais chinois, comme pour la première fois, la singularité et l'étrangeté de la philosophie occidentale et l'audace, l'intelligence de Platon et d'Aristote. Merci François Julien. Le Seuil a rassemblé dans un volume sous le titre « La pensée chinoise dans le miroir de la philosophie » 7 livres dont le traité de l'efficacité, invitation à redécouvrir les Grecs depuis l'ailleurs chinois. Et je vous signale aussi, pour penser avec la Chine, cette publication des empêcheurs de penser en rond, Oser construire, pour François Julien, avec des textes entre autres de Jean Alouche, Alain Badiou, Lin Shihing, Léon van der Mech et d'autres, dont notamment Du Xiao Zhen. Sur le bateau d'Ulysse, une émission proposée par Gérard Gromère. Aujourd'hui, la Grèce au risque de la Chine, avec François Julien. Prise de son, Ariane Herbé. Réalisation, Sylvie Migaud.